Bien, nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14. Et nous allons relire les versets 6 jusqu'à 13. Mais nous nous concentrerons ce matin sur le verset 13. Mais relisons donc les versets que nous avons considérés la dernière fois à partir du verset 6. Apocalypse 14, à partir du verset 6. Nous lisons ceci, Jean écrit « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un autre, un second ange suivit en disant « elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Et un autre, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte « si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange. » dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » La dernière fois, donc, nous avons vu les versets 6 à 12 et le message de ces trois anges qui annoncent, qui avertissent du jugement de Dieu, de l'inévitabilité de ce jugement. Et de la sévérité, de la condamnation de Dieu. Et c'est un appel à se réveiller, à considérer la réalité de Dieu, du Dieu créateur de l'univers, à considérer la réalité de son message, de sa parole, de son invitation à venir dans la repentance et la foi à Christ. Et ici, donc, au verset 13, nous avons l'opposé, nous avons un message de réconfort, premier mot sur la feuille. Message de réconfort pour les croyants. Nous savons, nous l'avons déjà dit, que Jean écrit à des églises qui font face à la persécution, qui font face à la mort. Un d'entre eux est déjà mort, rappelez-vous, Antipas, chapitre 2, dans la ville de Pergame. Et l'histoire de l'église nous apprend que ces églises, effectivement, ont souffert. Et un grand nombre de croyants ont été mis à mort. L'Empire romain arrive avec toute sa force et sa persécution, et beaucoup allaient mourir dans l'arène. Et l'Apocalypse, la parole de Dieu dans son ensemble, appelle d'une part à rester fidèle au Seigneur Jésus-Christ, même jusqu'à la mort, ne pas renoncer à l'Évangile. Mais nous donne aussi, et le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous donne, le plus grand des réconforts, même dans la pire des situations. Et c'est à la lumière de ce genre de réconfort qui vient de Jésus, du Fils de Dieu, de celui qui a entre ses mains les clés de la mort. C'est à la lumière de ce genre de réconfort que les croyants peuvent vivre et ont pu vivre, et aujourd'hui encore peuvent vivre, comme nous dit l'apôtre Paul en Romains 8, comme étant ceux qui sont plus que vainqueurs. Et ce réconfort donc arrive au bon moment. Apocalypse 14 est la fin de la quatrième section, de cette quatrième vision qui englobe les chapitres 12, 13 et 14. Les chapitres 12 et 13 nous ont montré la férocité et la réalité de l'opposition à laquelle l'Église doit faire face. Nous avons un ennemi, un ennemi qui a un désir ardent de faire du mal à l'Église. L'Apocalypse décrit l'adversaire, décrit Satan comme un dragon. Et il n'est pas seul, il a ces deux bêtes terrifiantes. Avec lui, il peut faire du mal. Et c'est son intention. Il veut faire du mal. Et le Seigneur Jésus-Christ appelle son peuple à persévérer. Mais il donne le réconfort. Si nous devons mourir pour Christ, nous serons heureux. Ou le sens aussi, ça a le sens de béni, de bénédiction, en mourant dans le Seigneur. Et c'est une façon de voir cette grande différence entre ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ. Dans la vie, il y a cette différence. Dans la vie, il y a cette différence. C'est le deuxième mot, sur la feuille. Il y a cette différence. Dans la vie, on peut l'exprimer ainsi. Le chrétien est en paix avec Dieu. Nous l'avons vu avec les enfants ces dernières semaines. Il est justifié. Il est réconcilié avec Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Il est en paix avec Dieu. Mais il est en guerre contre Satan, en guerre contre le péché, en guerre contre ce monde, en guerre contre sa propre chair. La situation pour l'incroyant est exactement l'opposé. L'incroyant est en paix avec ce monde. Il est en paix avec la chair. Il est en paix avec le péché. Mais il est en guerre contre Dieu. Cette différence se voit dans la vie, mais cette différence se voit aussi dans la mort. Si on revient au verset 11, que nous avons vu la dernière fois, on voit ce jugement éternel qui est sur ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, qui ont choisi ce monde, qui ont adoré la bête, même si on était conscient ou pas. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit. Voilà la mort pour l'incroyant. Et le contraste, là, il saute aux yeux. Les chrétiens sont heureux, ceux qui sont en Christ sont heureux. Pourquoi ? Parce qu'ils se reposent. Parce qu'ils se reposent. Il y a un personnage dans l'Ancien Testament qui a sans doute compris la différence entre le peuple de Dieu et les incroyants. Et ce personnage, c'est Balaam. Vous vous rappelez peut-être de l'histoire, on retrouve cela dans le livre des Nombres. Israël traversait le désert après sa sortie d'Égypte. Et voilà, il y a ce personnage que l'on retrouve, un genre de devin, qui s'appelle Balaam. Et le roi Balak va payer ce devin Balaam pour qu'il maudisse Israël. Mais quand Balaam essaye de le faire, Dieu l'en empêche. Et on lit en Nombre 22, verset 12, Dieu dit à Balaam, « Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam donc apprend que voilà, Dieu a un peuple et Dieu garde et Dieu protège ce peuple. Mais ce qui va le marquer, c'est cette différence entre le peuple de Dieu et les autres peuples dans la mort. Et Balaam dit ceci, qui est assez extraordinaire pour un incroyant. En Nombre 23, verset 10, Balaam dit ceci, « Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. » Balaam exprime une aspiration, un désir, une envie. Et on retrouve cela quelque part ici dans ce verset 13 d'Apocalypse 14. La mort des enfants de Dieu devrait être enviée. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Heureux, bénis soient ceux qui dès à présent meurent dans le Seigneur. Comme j'ai dit, l'arrière-plan de cela, c'est la persécution qui arrive. Et pour cette raison, certains experts vont dire que ce verset ne concerne pas tous les chrétiens et qu'il concerne que les martyrs, que ceux qui vont mourir à cause de leur témoignage. Et l'accent, ils disent que voilà, l'Apocalypse fait référence à la persécution qui arrive au premier siècle. Et puis, au chapitre 6, nous avons vu les âmes des martyrs sous le trône de Dieu. Et au chapitre 6, verset 11, on lit ceci, « Leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. » Et ici, au chapitre 14, verset 13, on lit que ceux qui meurent dans le Seigneur se reposent de leurs travaux. Et donc certains disent, voilà, ceci ne parle pas de tous les croyants, mais seulement des martyrs. Mais la voix du ciel qui retentit ne dit pas « Heureux ceux qui meurent d'une mort violente » pour leur témoignage. La voix qui vient du ciel dit « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur ». Il n'y a pas d'autre précision si ce n'est de mourir dans le Seigneur. C'est la bénédiction de Dieu sur tous ceux qui terminent leur vie dans la foi en Jésus-Christ. Et donc le premier point, la bénédiction est pour ceux qui sont en Christ, troisième mot sur la feuille. Cette bénédiction est pour ceux qui sont en Christ. Et la clé donc pour comprendre cela, c'est de comprendre ce que veut dire être dans le Seigneur. Cette expression parle de ceux qui terminent leur pèlerinage dans la foi au Seigneur Jésus-Christ. En Hébreux 11, verset 13, nous avons la description des patriarches et de la mort des patriarches. Et nous lisons ceci, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Les deux vont ensemble. Mourir dans le Seigneur, c'est mourir dans la foi. Paul a souvent parlé d'être en Christ, d'être dans le Seigneur. Philippiens 3, versets 8 et 9, Paul va donner son témoignage dans ce chapitre, comment il a renoncé à tout, en particulier à tous les mérites de la chair. Et il dit, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Être en Christ, ce n'est plus mettre sa confiance dans sa propre justice, mais c'est se confier dans la justice qui s'obtient par la foi en Christ. Et mourir dans le Seigneur, c'est quitter ce monde en étant justifié, en étant en règle, réconcilié avec Dieu. Et cela, nous l'avons vu avec les enfants, c'est par la foi en Christ et uniquement par la foi en Christ. Il est intéressant ici de noter que le livre de l'Apocalypse contient sept béatitudes, quatrième mot sur la feuille, sept béatitudes, des expressions de bénédiction que Dieu donne à son peuple. Les sept s'adressent au même peuple. Ici, nous avons la deuxième. Et donc, pour bien la comprendre et comprendre ce que veut dire cette expression « dans le Seigneur », il est intéressant de voir les autres bénédictions qui décrivent ce peuple, ces autres béatitudes. La première, nous l'avons au chapitre 1, verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » C'est une parole qui s'adresse à ceux qui reçoivent la parole de Dieu avec foi et qui la gardent. Et une autre, au chapitre 22, verset 7, va dans le même sens, en s'adressant à ceux qui gardent les paroles de ce livre. Être dans le Seigneur, donc, c'est croire sa parole, c'est croire ce qu'il dit, c'est recevoir sa parole, cette parole comme venant de lui, et c'est garder cette parole, c'est vivre selon cette parole. Il y a une autre béatitude, au chapitre 20, au verset 6, parle d'être né de nouveau. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Et nous le verrons, la première résurrection parle de la nouvelle naissance. Une autre béatitude parle d'être pardonné de ses péchés par la foi en Christ. Chapitre 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Au chapitre 16 et au verset 15, la béatitude parle de ceux qui restent réveillés, qui ne sont pas emportés par le mal qui est dans le monde. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et au chapitre 19, verset 9, la béatitude parle de ceux qui sont les amis de Christ, ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Voilà les bénédictions, voilà les béatitudes qui s'adressent aux enfants de Dieu, à ceux qui sont lavés dans le sang de l'agneau, qui sont unis à Christ par la foi et qui attendent le jour de son retour avec impatience. C'est ça, être en Christ. L'idée, donc ici, ce n'est pas, ou l'accent, ce n'est pas sur ce qui se passe à notre mort, mais c'est d'abord sur ce qui se passe maintenant. La bénédiction de Christ ou de Dieu dans la mort s'adresse à ceux qui vivent aujourd'hui dans la foi. Cinquième mot sur la feuille. La bénédiction pour ceux qui meurent en Christ s'adresse à ceux qui aujourd'hui, cinquième mot sur la feuille, qui aujourd'hui vivent par la foi et dans la foi. C'est vrai qu'il y a eu des personnes qui ont regardé à Christ sur leur lit de mort, mais ce n'est pas la norme. Récemment, nous avons vu le malfaiteur sur la croix. Et en parlant de cet événement et de la conversion de ce brigand à l'heure de sa mort, un auteur dit ceci, il dit que la Bible nous donne un exemple d'une conversion à l'heure de la mort afin que nous ne tombions pas dans le désespoir. Mais elle ne nous donne qu'un seul exemple afin que nous ne considérions pas cela comme étant la norme. La voie pour mourir dans le Seigneur, c'est de vivre pour le Seigneur aujourd'hui. Mourir dans le Seigneur, c'est continuer jusqu'au bout une relation qui a commencé par la nouvelle naissance. C'est le croyant qui traverse la vallée de l'ombre de la mort. Mais il a aussi traversé toute cette vie en chantant et en louant celui qui est son berger, en sachant qu'il n'a jamais manqué de rien. C'est la même foi qui se repose sur les mêmes promesses, qui regarde au même Sauveur depuis la nouvelle naissance, depuis le début. C'est l'enfant de Dieu qui s'endort dans les bras de celui qui l'a porté tout au long de sa vie. Cette bénédiction, donc, est réservée à ceux qui sont en Christ. Et cela met en évidence l'erreur tragique dans la pensée de Balaam. Balaam réalise qu'il veut et désire mourir de la mort des justes. Mais il ne voulait pas vivre la vie des justes. Et aujourd'hui, trop de personnes parlent d'aller au ciel, mais ces personnes ne regardent pas à Christ. Balaam voulait mourir de la mort des justes, mais il n'a pas voulu du Sauveur. Il est mort, non pas avec la bénédiction de Christ, mais avec la malédiction de la colère de Dieu, à cause de ses péchés. La seule manière de mourir dans le Seigneur, c'est aujourd'hui de venir au Seigneur dans la repentance et la foi. Jean 3, 36 dit ceci, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et donc, important pour savoir ce qui se passe à notre mort. Et on entend trop de choses au sujet de la mort, des idées sentimentales qui circulent. Ce verset nous dit que si nous savons quelle est notre espérance, cela nous donne une hardiesse pour vivre, comme cela a encouragé les croyants du premier siècle à vivre pour Christ. Et cela donc nous amène au deuxième point, des généralités au sujet de l'enseignement de la Bible, au sujet de la mort, la vie après la mort pour les croyants. La première chose que l'on peut dire au sujet de l'enseignement de la Bible sur la vie après la mort pour le croyant, c'est que dès que la mort arrive, l'âme est séparée du corps, sixième mot sur la feuille. Alors c'est vrai pour tous, c'est vrai pour les croyants et les incroyants. L'âme est immédiatement séparée du corps. Et lors des funérailles, les gens, sans le savoir, parlent dans ce sens. Et même si le corps est présent, les gens disent « Non, la personne n'est plus là. Elle est partie. » Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que même après la mort, le corps et l'âme sont la personne, même s'il y a eu séparation. Il est intéressant de voir, par exemple, dans l'Évangile selon Jean, que quand le Seigneur Jésus-Christ est mort, qu'ils ont pris son corps pour le mettre au tombeau, Jean 19, verset 40, disent qu'ils prennent le corps de Christ, de Jésus, pour le mettre au tombeau, et le verset 42 dit qu'ils ont mis Jésus dans la tombe. Le corps est toujours la personne, même après la mort. C'est pour ça qu'on traite le corps avec respect. C'est parce que c'est la personne. Et à la résurrection, le corps et l'âme seront réunis. À la mort, il y a une séparation qui est temporaire. Ce moi conscient, ce moi, cette âme qui connaît les expériences, qui réfléchit, est séparée du corps physique. La Bible utilise un langage qui est le langage du sommeil. Vous vous rappelez de cette occasion où on annonce le décès de la fille de Jaïrus. Et en Marc 5, verset 39, Jésus dit à la foule, « L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Jésus annonce qu'il va ressusciter la petite fille, mais en parlant de dormir, il fait référence à l'apparence du corps dans la mort. Paul, en 1 Thessaloniciens 4, verset 13, et là c'est dans la version seconde, parle de ceux qui dorment. Ces termes de sommeil, de dormir, font référence à l'apparence du corps. Quand on voit un corps de quelqu'un qui est mort, il n'est plus animé. Il n'est plus animé par l'âme. L'âme n'est plus là. L'âme l'a quitté. Il y a eu cette séparation. Et cela doit corriger un enseignement qu'on peut entendre aujourd'hui qui s'appelle le sommeil de l'âme. Certaines personnes disent que voilà, les chrétiens ou l'âme des chrétiens n'est pas consciente entre la mort et le retour de Christ. Ces personnes vont s'appuyer sur ces passages qui utilisent le langage du sommeil. Mais le langage du sommeil est utilisé ici pour décrire l'apparence du corps. L'apparence du corps. L'âme, elle n'est pas endormie. Ce qui nous amène au point suivant. Où est l'âme du croyant ? L'âme du croyant est avec le Seigneur Jésus dans le ciel, septième mot sur la feuille. Et c'est là encore que nous avons une différence entre le croyant et l'incroyant. Les âmes des incroyants qui sont encore sous le péché, qui attendent le jugement final, sont déjà en enfer. Les âmes des croyants, par opposition, sont avec le Seigneur Jésus dans le ciel, et en attendant que leur corps d'être réunis à leur corps lors de la résurrection finale. Paul dit en 2 Corinthiens 5, verset 8, « Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur, parce que c'est là notre véritable demeure. Notre véritable demeure, c'est d'être auprès du Seigneur. » Psaume 116, verset 9, le psalmiste dit ceci, « Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Ce monde dans lequel nous vivons est la terre des mourants. » Le croyant, lui, marchera sur la terre des vivants. quitter ce monde, c'est être auprès du Seigneur. Un commentateur dit ceci, Matthew Henry, « Les âmes de ceux qui meurent dans le Seigneur sont dans sa présence. Elles ne sont pas perdues, elles ne sont pas perdantes, mais elles sont les grandes gagnantes de la mort parce qu'elles ont quitté ce monde pour entrer dans un monde meilleur. » Et c'est ce que Jésus-Christ a dit au malfaiteur qui a été crucifié à ses côtés et qui s'est tourné à lui dans la repentance et la foi. Il dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, Luc 23, verset 43. À sa mort et à la mort de Jésus, le malfaiteur sera avec le Seigneur Jésus-Christ dans le paradis. » C'est pour ça que Paul peut écrire en Philippiens 1, verset 21, « Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Dans la mort, notre âme et notre corps seront séparés, mais notre âme, si nous appartenons à Christ, notre âme sera avec le Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. Mais une autre chose à dire au sujet de ce qui se passe, c'est que lorsque le croyant meurt, son âme est immédiatement rendue parfaite en sainteté. Huitième mot sur la feuille. La confession de foi baptiste de 1689, celle publiée par Europress, résume cela au chapitre 31. L'âme des justes, rendue alors parfaite en sainteté, est reçue dans le paradis où elle est avec Christ et contemple la face de Dieu dans la lumière et dans la gloire, attendant la pleine rédemption de son corps. Ça résume l'enseignement de la parole de Dieu. Hébreux 12, verset 23, décrit les chrétiens dans la mort de cette manière. Il parle des esprits des justes parvenus à la perfection. Les justes sont ceux qui ont été justifiés par la foi en Christ. Ils ont vécu leur vie en Christ. Ils ont été justifiés, ils sont morts en Christ. Leur âme au ciel est devenue parfaite. Ils sont parvenus à la perfection. Et donc, dans un sens, pour les chrétiens, on ne devrait pas parler de mort soudaine, on devrait parler de gloire soudaine. Dès que l'âme quitte le corps, l'âme du croyant est avec le Seigneur et elle est rendue parfaite en sainteté. Et donc, il est important de connaître ces choses parce que cela nous aide, même dans les difficultés, même sous la persécution, à vivre sans crainte pour le Seigneur Jésus-Christ. On a l'exemple du premier martyr, Étienne, en Actes chapitre 7, lapidé, mis à mort à cause de son témoignage. En mourant, il regarde au ciel et il décrit ce qu'il voit, Actes 7, 56. Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Étienne savait, voilà, il allait être dans leur présence dans quelques instants. Et qu'est-ce qu'il fait? Verset 60, il prie pour ceux qui le persécutent. Et un de ceux qui se tenaient là était Saul de Tarse. Et Saul a été utilisé pour répandre l'Évangile. Connaître cette espérance dans la mort remplit le croyant, remplit Étienne, et remplit tout croyant de courage. En 1 Corinthiens 13, verset 12, Paul écrit que « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. » Nous serons dans la présence même de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une réalité, c'est une bénédiction pour tous les croyants. Pour les martyrs, bien sûr, mais aussi pour ceux qui avancent en âge, qui s'avance vers ce jour qui est fixé d'avance. C'est une bénédiction pour ceux qui souffrent, qui souffrent à cause d'une maladie terminale. Mais c'est aussi une bénédiction pour tout croyant, pour tous ceux qui sont en Christ. Heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. C'est une bénédiction pour tout croyant. Mais cela nous amène au troisième point, parce qu'ici, Jean donc nous donne deux aspects de cette bénédiction pour le croyant. Avant de voir les deux aspects, voyons juste le contexte. J'entends une voix qui vient du ciel et qui lui dit « Écris ». Et ensuite, il entend l'Esprit qui rajoute et qui dit « Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Qu'est-ce qui se passe avec cette voix du ciel et avec le témoignage de l'Esprit? Nous avons ici les deux témoins qui sont nécessaires. Neuvième mot sur la feuille. Les deux témoins qui sont requis par la loi pour valider la vérité. L'un de ces témoins est la voix qui vient du ciel, l'autre est l'Esprit Saint. Et c'est important parce que le monde, lui, va nous dire beaucoup de choses au sujet de la vie après la mort. Mais le monde ne sait pas. Le monde ne connaît pas. Même dans des librairies dites chrétiennes, on va trouver des livres d'auteurs qui racontent qu'elles sont allées au ciel, qu'ils partagent leurs expériences. Mais tout cela n'est que tromperie. Ces personnes racontent des choses que la Bible ne dit pas. Ici, nous avons deux témoins. Et ce que disent ces témoins est vrai. La voix venant du ciel est l'Esprit de Dieu. Le monde, lui, a toutes sortes d'idées, toutes sortes d'imaginations. Mais personne dans le monde n'est allé parler avec ceux qui sont au-delà. Ici, nous avons la voix du ciel, l'Esprit de Dieu et leur message qu'il donne est un message qui est sublime. Dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur sont heureux, sont bénis. Voilà ce que nous devrions écouter. Voilà leur témoignage, voilà ce témoignage qui compte. Tous les croyants qui meurent en Christ sont heureux. Le premier aspect donc de cette bénédiction, nous dit l'Esprit, c'est la fin, dixième mot sur la feuille, la fin des travaux, la fin des labeurs épuisants que nous connaissons dans ce monde. Et on voit ici encore une manière où l'Esprit continue l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit n'agit pas seul, l'Esprit n'a pas son ordre du jour personnel. Il prend l'œuvre de Christ et il l'applique au cœur. Vous vous rappelez de l'invitation du Seigneur Jésus-Christ. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Et c'est vrai que c'est un véritable repos que de savoir que nos péchés sont pardonnés, que nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. Mais nous savons aussi la réalité que nous ne sommes pas encore entrés dans le repos éternel. Il y a encore beaucoup de labeur, beaucoup de travaux sur terre. Mais l'Esprit dit qu'il va accomplir cette invitation que Jésus a lancée. Il donnera le repos éternel. Ils se reposeront, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Et le terme « travaux » ici comprend l'idée d'un effort, souvent un effort douloureux, un effort pénible, un effort fatigant. Or, bien entendu, dans un sens, cela englobe toutes les expériences difficiles de la vie. On souffre tous d'une manière ou d'une autre. On transpire, on se décourage, on se sent à bout parfois parce qu'on trouve que tout est difficile. Mais plus particulièrement, cela inclut les combats, onzième mot sur la feuille, les combats, les efforts du croyant qui veut suivre Christ, qui veut rester fidèle à Christ, qui veut vivre cette vie à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Le croyant est en guerre contre le péché. Il veut mettre à mort sa chair. Il combat le monde qui est si envahissant. Il ne veut pas écouter les tentations du diable. C'est pas facile, c'est dur, c'est un combat, c'est pénible. Ceux qui sont dans le monde ont la vie facile. Mais à la fin, ils devront rendre les comptes à Dieu. Le croyant, lui, combat le péché. Il combat le péché de ce monde qui est hostile. Il veut vivre une manière qui honore Dieu. Cela veut souvent dire à contre-sens, à contre-courant de la société. Il doit batailler, il veut apprendre à batailler dans la prière. Il veut prendre plaisir dans la lecture et l'étude de la parole. Il veut prendre plaisir, et parfois c'est un vrai combat, dans l'adoration de Dieu, seul ou ensemble. Il veut être un exemple pour les autres. C'est une labeur, c'est fatigant, c'est un travail. Mais au ciel, il y a le vrai repos. 12e mot sur la feuille. Il n'y aura plus de labeur. Il n'y aura plus d'efforts douloureux, plus d'efforts pénibles. Dans son livre « Le ciel ou le vrai repos », Baxter, livre traduit et publié chez Europress, Baxter fait une liste, il résume, et je résume ici ce qu'il dit. Il dit « Le ciel exclut le péché. » Il n'y aura plus de péché dans le ciel. « Les ténèbres ne troubleront plus notre intelligence. Nos souffrances cesseront. Les tentations de Satan ne nous attendront plus. Les séductions du monde et de la chair cesseront. Les insultes et la persécution du monde cesseront. Nos tristes divisions et querelles impies disparaîtront. Et notre imperfection prendra fin. » Voilà, tout cela, toutes ces choses vont cesser et ce sera le véritable repos. Et pour bien comprendre ce que veut dire se reposer dans la mort, il est utile de comparer l'enseignement biblique avec cette doctrine abominable de l'Église de Rome qui s'appelle le purgatoire. Rome enseigne qu'il ne faut pas s'attendre à un repos dans la mort, mais qu'il faut s'attendre au tourment enflammé et purificateur du purgatoire. Dans le livre « La foi du Vatican », encore une fois chez Europress, l'auteur écrit, il cite le catéchisme de l'Église romaine et il dit ainsi: le catéchisme de l'Église catholique insiste sur ce fait. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Au lieu de se reposer de ses travaux, selon l'Église romaine, le chrétien qui meurt entre dans une phase de douleur et de peine plus intense. Au lieu d'être béni, d'être heureux avec Christ, le croyant, selon l'Église romaine, souffre pour ses péchés. Et au lieu de trouver que le sang de Jésus a lavé de tout péché, le croyant, selon l'Église romaine, essaye de se purifier, de se purger, d'où le nom purgatoire, de ses péchés dans les flammes. Au lieu d'être délivré de toutes les choses de ce monde, selon l'Église romaine, le croyant dépend encore plus des prières, des messes, des indulgences de l'Église sur terre, de la volonté du prêtre, de la charité des pécheurs. Et ne l'oublions pas, de l'argent pour acheter la médiation du prêtre, pour raccourcir ce temps de souffrance au purgatoire. Mais cette doctrine romaine est fausse. Rome tient les personnes dans un esclavage. Elles sont esclaves. Les papes ne parlent pas avec l'autorité du ciel. Ils ont usurpé cette autorité. Et ils maintiennent des foules dans cet esclavage. Mais celui qui est véritablement un Christ, il sait que parce que la parole le dit, il meurt, s'il meurt en Christ, il meurt heureux. Il ne doit pas passer du temps à purger ses péchés après sa mort, parce qu'il sait que le sang de Christ nous purifie de tout péché. Le croyant ne sera pas séparé du Seigneur, il sera avec lui dans la gloire. Le croyant ne dépendra plus de personne sur ce monde. Il ne dépendra pas de ce que des personnes soient obligées de faire quelque chose pour raccourcir son temps de souffrance. Non, le croyant sera avec Christ. Il sera avec Christ, il sera dans la présence même du Seigneur Jésus. Et il se reposera dans la lumière et la gloire. Il sera rendu parfait. Il se reposera. Et le deuxième aspect de cette bénédiction parle d'une récompense. 13e mot sur la feuille. D'abord le repos, ensuite les récompenses. Tous nos péchés, nos tourments, nos labeurs seront laissés derrière nous, mais nos œuvres bonnes, celles que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, cette vie de fidélité au Seigneur Jésus-Christ, même dans la persécution, ces choses que Dieu nous a appelées à faire, ces œuvres nous suivront et seront comme une couronne sur notre vie de foi. Alors bien entendu, la parole de Dieu enseigne que le pécheur est sauvé par la grâce seule, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, et seulement par le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres. Nous n'avons aucun mérite que nous pourrions mettre dans la balance. Même notre foi n'est pas un mérite, c'est un don de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce, seulement par grâce. Mais la Bible enseigne aussi que ceux qui ont été sauvés par grâce seront récompensés pour leurs œuvres. Nos œuvres ne nous apportent pas la récompense du ciel, mais elles nous apportent une récompense dans le ciel. Le Seigneur Jésus-Christ, par exemple, a dit d'amasser des trésors, non dans ce monde, mais au ciel. Si on vit pour des choses qui sont récompensées dans cette vie, on est insensé. Il faut vivre pour des choses qui reçoivent une récompense dans le ciel, vivre une vie pour Dieu. On peut penser à la parabole des talents, par exemple, en Matthieu 25. Et Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, parlant de ceux qui annoncent la parole, et au verset 14, il dit ceci, « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » Mais ce verset 13, dans Apocalypse 14, est très utile pour comprendre la place des œuvres pour le chrétien. Parce que nous lisons ici que leurs œuvres les suivent. 14e mot sur la feuille. Nos œuvres ne nous précèdent pas. Nos œuvres bonnes ne nous précèdent pas. Elles ne sont pas la clé pour ouvrir la porte du paradis. Non, c'est celui qui nous précède, c'est Christ et son œuvre qui nous ouvre et qui nous garantit l'accès au ciel. Il est le précurseur, il est celui qui nous précède. C'est sur ses œuvres que nous nous reposons. Sa vie parfaite qui a accompli toute la justice de Dieu, sa mort expiatoire sur la croix pour les péchés de son peuple, ce sont ses œuvres qui nous précèdent et ce sont ses œuvres sur lesquelles nous nous reposons. Nos œuvres nous suivent. Et cela devrait nous apprendre à ne pas nous auto-congratuler. C'est vrai que le chrétien accomplit des bonnes œuvres. Il a été créé pour cela, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça devrait même être la norme pour lui. Son caractère se développe toujours plus à l'image de Christ. Sa vie est toujours plus une vie de foi. Mais même si cela est vrai, ce n'est pas sur cela que nous devons nous attarder. Nous devons fixer nos regards sur celui qui est l'auteur de notre foi, le Seigneur Jésus-Christ. Ne pas avoir une trop haute opinion de nos œuvres, laissons-les derrière nous. Elles nous suivent. Regardons à celui qui est devant nous. Focalisons-nous sur l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et prenons l'exemple de l'apôtre Paul, qui dit en fin de Galates, chapitre 6, verset 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et un commentateur, toujours Matthew Henry, dit ceci, « Les œuvres des croyants ne les précèdent pas comme un titre ou un billet d'entrée, mais elles les suivent comme l'évidence qu'ils ont vécu et sont morts dans le Seigneur. » Voilà la place des œuvres. Les œuvres sont l'évidence. 15e mot sur la feuille. L'évidence de la vraie foi. La vraie foi se manifeste par des œuvres. Le problème, c'est que beaucoup de croyants aujourd'hui ne prêtent pas attention à ce qu'ils font. Et une des raisons pour cela, c'est la culture de la célébrité. Certains prédicateurs, certains missionnaires, certains leaders sont considérés comme des vedettes. Et beaucoup pensent qu'après tout, à leur petit niveau, ce qu'ils font a peu d'importance. Mais si on regarde ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit en Matthieu 25, par exemple, quand il parle, passage parallèle au passage que nous avons lu tout à l'heure en Marc, quand on parle, le Seigneur Jésus-Christ parle du jugement, il parle de séparer les brebis et les boucs, et il va louer les brebis pour ce qu'elles ont fait. Et dans les versets 35 à 40 de Matthieu 25, il dit par exemple, « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez nourri. » Et les brebis se demanderont, « Mais quand est-ce que nous avons fait ces choses ?» Il dit, « Mais quand vous les avez fait à un des plus petits, vous les avez fait, c'est à moi que vous les avez fait. » Jésus ne parle pas des œuvres impressionnantes, des œuvres qui ont existé, qui vont peut-être encore exister aujourd'hui, des œuvres, des personnes que Dieu utilise pour accomplir des œuvres qui sont répandues, qui sont très connues. Non. Ce qui intéresse le Seigneur Jésus-Christ, ce sont des actes quotidiens, 16e mot sur la feuille. Des actes quotidiens que le croyant accomplit dans la foi, dans l'amour, des actes qui témoignent de notre union avec Christ. Les œuvres les suivent. L'Empire romain, bien sûr, n'a jamais pensé que les lecteurs de l'Apocalypse étaient heureux, étaient bénis. Le monde les décrivait comme étant des perdants. Et ils allaient tout perdre parce que, voilà, l'Empire romain allait venir et les mettre à mort. C'est la même chose aujourd'hui. Le monde nous regarde, il voit ce que nous faisons et pour lui, tout cela est insignifiant. Tout cela est... Et n'a pas de valeur aux yeux du monde, n'a pas d'impact. Mais que nous dit la parole de Dieu ? Heureux, bénis, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Comment appliquer cela ? Au verset 12, nous avons vu que Jean avait exhorté à la persévérance et à la foi. Mais le verset 13 nous dit qu'il n'est pas seulement important d'arriver au bout et de mourir dans le Seigneur, et le vrai croyant le fera par la grâce de Dieu. Mais il nous rappelle que ce que nous faisons dans notre vie a une valeur. Notre façon de vivre compte, même si le monde ne le remarque pas. Comment nous éduquons les enfants, comment nous nous comportons avec les autres, comment nous avançons dans la vie avec les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Notre façon d'aborder la mort compte quand nous sanctifions nos craintes avec le réconfort que nous trouvons dans la parole de Dieu. Combattre le bon combat compte. Notre travail dans le Seigneur n'est pas en vain. Mais dans un sens, ce qui est important, c'est ce qui se passe aujourd'hui, 17e mot sur la feuille. La destinée éternelle, elle est forgée par le présent. Comment est-ce que nous répondons à l'évangile de Christ ? Comment est-ce que nous répondons à l'invitation de Christ ? Comme nous l'avons dit, la bénédiction de Dieu dans la mort, elle est pour ceux qui sont en Christ. Et uniquement eux. Nous ne devons pas ressembler à Balaam qui a souhaité mourir la mort des justes, mais qui n'a pas voulu la vie des justes. Désirer la bénédiction de Dieu dans la mort est une chose, mais cette bénédiction est pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui sont réconciliés, 18e mot sur la feuille, qui sont réconciliés avec Dieu par la foi en Christ. Et que feront les croyants avec ces bénédictions ? Ils les présenteront à Dieu et à l'agneau sous forme de louanges et d'adoration pour toujours. Que Dieu nous encourage par sa parole, qu'il nous fasse lever les yeux vers les réalités spirituelles, vers les choses d'en haut, afin que, en vue de la joie qui nous est offerte, nous méprisions ce monde et ses tentations. Nous ne nous attachions pas à ce monde, mais que nous vivions pour lui, pour Dieu, par sa grâce et en comptant sur lui seul. Que Dieu nous aide à saisir cela, donc, et à le vivre pour sa gloire. Amen.